Chers auditeurs, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous accueillir comme chaque dimanche. Cette semaine, Justina, en 10 minutes chrono, vous nous promettez de nous résumer la Bible. J'aime ce défi, tout comme nos auditeurs qui ont certainement hâte de vous entendre. En effet, cela peut être pratique de résumer ainsi ce livre saint, hein, lorsque nous sommes dans un exercice d'évangélisation, dans la rue ou ailleurs, et que nous souhaitons que notre interlocuteur soit attiré par nos propos. Bonjour Justina.
Bonjour.
Roland Hureau sera de nouveau à nos côtés. Merci beaucoup monsieur d'être avec nous. Nous parlerons cette fois-ci de Jésus en tant qu'homme. Je rappelle à nos auditeurs que nous nous appuyons sur votre excellent ouvrage « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », paru chez Desclée de Brouwer. Alors, sans plus tarder, démarrons le chrono et découvrons en 10 minutes dans la Bible, chère Justina.
Bonjour. On m'a demandé récemment comment est-ce qu'on peut résumer la Bible de manière très condensée. Ici, c'est possible. Bon, je dirais que oui et non, tout dépend à qui on doit résumer les Écritures. Mais j'accepte les défis. Donc, même si je comprends très bien que le résumé court, c'est toujours par définition incomplet.
Et frustrant.
Oui. Partons du principe que nous savons déjà que nous faisons face à une compilation qui est divisée au moins en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, essayant de distinguer leurs messages essentiels. Si on devait résumer l'Ancien Testament en une seule phrase, ce serait « Dieu est le Seigneur ». En ce monde et à notre époque, ceci n'est pas du tout une évidence. Il suffit d'observer, parce que voilà, maintenant on ne se pose pas de questions, mais à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Il suffit d'observer les mythologies des peuples voisins. La divinité créatrice se trouve en général hors de son trône et de son pouvoir, qui est usurpé par des descendants usurpateurs, de tradition familiale. Nous le voyons très bien dans la mythologie grecque où Zeus est certes le seigneur qui règne sur l'Olympe, mais ce n'est pas lui qui a créé le monde, ni même son père Cronos, ce sont juste des usurpateurs successifs. Il en est de même pour la mythologie plus proche des Israéliens, la mythologie sumero-acadienne. Le dieu du vent Marduk tue sa grand-mère Tiamat, la déesse de la mer primordiale, le chaos, et façonne ce monde à partir de sa dépouille. Ses yeux deviennent des astres, ses larmes le tigre, le Euphrate, son corps, la terre. Nous voyons très bien, ne serait-ce que sur ces deux exemples, que l'affirmation que le Dieu créateur est toujours le Seigneur n'est pas du tout évidente pour le monde ancien. Tout le récit de la Genèse qui parle de la création est d'ailleurs polémique, il polémise avec le mythe sumérien et des mythes égyptiens. La création se fait aussi avec un esprit qui vole par-dessus des eaux primordiales, les abysses, en hébreu c'est Tehom, mais sans meurtre ni guerre comme dans le mythe sumero-acadien. Dieu crée le soleil et la lune, avant ça il crée la lumière, et ce ne sont pas des divinités comme chez les Égyptiens, mais des simples lampadaires. Donc le Dieu d'Israël n'a pas de concurrent réel. L'homme, avec sa chute, on a fait déjà une émission en détail, garde toujours ses penchants pour la simplicité, et toute l'histoire du peuple d'Israël, on retrouve dans l'Ancien Testament, on parle de déviance du peuple élu vers le paganisme et l'idolâtrie. Malgré tous les miracles, malgré la présence divine au sein du peuple sous la forme de Shekhinah, malgré la loi transmise par Moïse, malgré les discours des prophètes et malgré les châtiments. Le peuple d'Israël fait un long chemin de l'évolution religieuse en partant du simple paganisme, en passant par l'énothéisme et en arrivant enfin au monothéisme.
Ah oui, alors petit rappel, hein, l'énothéisme, c'est le système religieux polythéiste qui est caractérisé par le culte prédominant d'un dieu majeur, c'est ça?
Oui, enfin, c'est pas forcément polythéiste, mais on ne se préoccupe même pas de lutter contre l'existence des autres dieux. C'est pour ça qu'on peut trouver des passages dans les Écritures où on dit « je suis le dieu jaloux, tu n'auras pas d'autres dieux, les dieux des autres peuples, ceci, cela, c'est normal, on est en train d'évoluer. »
Très bien.
Le veau d'or qu'on retrouve dans l'Exode chapitre 32, c'est pas un hasard non plus, c'est une forme religieuse populaire. Moïse ordonne à son peuple d'accepter le dieu Yahvé, mais autrefois, les peuples sémitiques nomades vénéraient un dénommé El. Oui, d'ailleurs, on sait d'où ça vient, Elohim, Eloah. Une divinité représentée sous forme de taureau. Ils reprennent donc une forme connue d'une divinité connue et à qui ils donnent un autre nom, le nom de Yahvé qui est l'éternel, le verbe dans les trois être dans les trois formes temporelles. Donc ils vont prendre la représentation d'une divinité ancienne et l'attribuer à une nouvelle divinité qui leur sort d'Égypte. Les auteurs de Haggadah.
Alors, l'Agada sont des compilations, c'est
Oui,
ça?
ce
Sont
sont
des
des
écrits?
compilations de traditions orales juives. Bon, pense que le veau d'or en question était emprunté chez les Égyptiens. Certes, ils avaient bel et bien une divinité représentée comme un taureau, portant le nom d'Apis, qui existait chez les Égyptiens. Mais il est plus probable que les Hébreux se sont inspirés de elle, car c'est une divinité des nomades éleveurs de bétail. Je rappelle que l'Égypte est non seulement hostile, mais c'est une culture de laboureurs et pas de nomades. Tout cela pour dire que le chemin des Israélites jusqu'au monothéisme a été long et douloureux. Dans la pratique religieuse, le rappel des fondements se fait à Pâques quand l'histoire de l'Exode est racontée par le plus ancien de la famille en s'adressant au plus jeune. La foi est aussi professée à chaque occasion où le schéma Israël, écoute Israël, est lu ou récité. L'idée centrale est une idée de la foi tribale et collective qui est à la suite d'un contrat, un testament conclu entre Dieu et Israël. Nous, chrétiens, nous croyons qu'il était nécessaire de passer par tout cela afin qu'Israël puisse donner la place au Messie le moment venu. Ici, le message principal de l'Ancien Testament est Dieu le Seigneur. Le message principal du Nouveau Testament, c'est Jésus et le Christ.
Eh oui.
Le Christ, c'est-à-dire le Messie, tant attendu par une grande partie des Israéliens, car les Sadducéens, bon, ça les intéressait pas trop, ils ne prenaient que la Torah. Depuis si longtemps, à travers toutes les péripéties, les souffrances du peuple, mais aussi les souffrances de Dieu, à force de subir l'ingratitude. Et ce n'est point du hasard que le peuple se nomme ainsi, car le nom qui lui a été attribué par Dieu lui-même, Israël, c'est à la fois celui qui lutte avec Dieu et c'est celui qui voit Dieu. Le Nouveau Testament est d'une part dans la continuité de l'Ancien, il parle toujours de Dieu d'Abraham, de Jacob, de Dieu de nos pères, mais voilà ce qui était imprévisible. Non seulement le Messie est venu, mais en plus il s'est avéré que Dieu s'est fait homme, et cela met fin à toute religion possible. L'humanité condamne son propre Créateur pour blasphème, car il ne correspond pas à nos attentes, mais il sauve l'humanité à travers lui. La foi en Christ n'est plus une question de respecter un contrat tribal, mais un choix personnel, et comme le démontre l'histoire de l'Église primitive, il y a un prix à payer pour ce choix, et très souvent on le paye de sa vie. Le christianisme est la seule religion de l'époque pour laquelle la foi était une affaire personnelle et non publique, et encore moins un devoir citoyen. Si les persécutions ont eu lieu, c'est bien la raison pour laquelle les chrétiens sortaient du lot. Ils se montraient non loyaux envers le culte impérial et ne faisaient pas partie des religions anciennes reconnues telles que le judaïsme. Le saint apôtre Paul nous démontre tout cela par sa vie et ses épîtres. Il formule la foi en commençant par je et non par nous. Et c'est ce que nous retrouvons aussi plus tard dans le Credo de Nicée. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur. Le Credo de Nicée réunit à lui seul les messages essentiels de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. La nouveauté aussi est que Dieu est Trinité. Nous pouvons désormais se déifier et devenir aussi des enfants de Dieu en l'appelant Père, du jamais vu ailleurs. Le Fils s'est fait homme et c'est en se joignant à lui que nous pouvons nous faire adopter et qu'enfin, à la fin des temps, ici-bas, notre Église est guidée par l'Esprit. Bien sûr que tout ça, c'est loin d'être complet, je sais, mais c'était le défi. La prochaine fois, j'approfondirai le sujet du sacrifice. On en parle souvent comme si cela allait de soi, mais tout n'est pas si simple.
Justina, 9 minutes.
Je crois que j'aurais pu faire mieux, surtout qu'il y a quelque chose. C'était trop rapide, c'était trop rapide.
On
Mea
pourra y
culpa.
revenir.
Oui.
En tous les cas, nous pourrions décliner cette présentation sur quelques parties de la Bible prochainement. On
Oui.
verra tout ça. Alors, écoutons à présent Jésus, Jésus par Emmanuel Music, tiré de l'album Adorez-le.
pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Roland Hureau, je vous avais présenté la dernière fois, j'avais dit que vous aviez une belle carrière à votre actif, ayant travaillé avec de grands hommes politiques. Voilà, vous avez occupé des postes prestigieux en diplomatie, mais aujourd'hui, donc, c'est de nouveau l'auteur, l'agrégé d'histoire que j'ai la joie d'accueillir, pour le livre, je rappelle, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Alors, parlons de cet homme nommé Jésus. C'est 3 années de vie publique que vous abordez de façon très incarnée, comme homme, pas toujours comme fils de Dieu. Vous nous décrivez un grand homme, mince, d'environ 1m80, tel que nous l'imaginons au XXIe siècle, hein, grâce au linceul, et surtout au mendilion, et non plus comme celui qui fut présenté suivant le modèle du jeune Romain, un berbe. Vous dites aussi sensible, viril, je parle d'une virilité morale. Alors vous analysez en profondeur les traits de sa personnalité, mais vous le présentez comme un homme normal, qui se nourrit, qui dort, mais aussi qui est surdoué. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et puis, racontez-nous cet incident que rapporte que Luc.
D'abord, alors, oui. D'abord, je voudrais vous dire pourquoi est-ce que je peux parler de Jésus homme,
oui.
Qui est le sujet principal de ce livre, oui. Parce que Jésus Dieu, écoutez, moi, je n'ai pas des élévations mystiques oui. pour... en parler de manière séparée. Puis, il ne faut pas séparer Jésus, le Jésus de l'histoire et du Jésus de la foi. Ça, c'est tout à fait hérétique. Oui. C'est le même. Il s'agit du même. Alors, pour ce qui est du Jésus homme, il y a un texte fondamental qui est cité au début, je crois, c'est le texte du Concile de Chalcédoine qui s'est tenu en 451
oui.
et qui dit très clairement que en Dieu, en Jésus, pardon, se trouvent deux natures, sans confusion et sans séparation. Sans séparation, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les traiter, dire qu'il y a d'un côté Jésus homme et de l'autre côté Jésus Dieu, comme c'est ce que je disais, c'est le même homme et c'est le même Dieu, mais sans confusion, c'est-à-dire qu'il faut affûter ces concepts pour on a le droit et même le devoir de considérer l'homme sans mélanger la dimension humaine avec la dimension divine. C'est tout à fait original dans l'histoire, c'est le début d'une pensée rationnelle, ça, parce qu'avant, dans les peuples primitifs, on mélangeait un petit peu le naturel et le surnaturel, alors que là apparaît, à l'issue de nombreuses discussions, cette idée que Jésus est à la fois Dieu et homme, sans confusion et sans séparation. Je pose ça parce que c'est très important.
Oui.
Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de symbolisme dans mon livre. J'ai un peu réagi contre de multiples sermons ou discours où on oublie tout de suite le récit qui a été l'évangile et puis on part tout de suite, ça symbolise ceci, ça
ah,
symbolise
oui,
ça, etc.
Oui.
Ce qui est un gros défaut, d'abord, très souvent on n'en sait rien, mais c'est un gros défaut, c'est que ça déréalise Jésus, la réalité de Jésus. Je veux dire, les gens qui écoutent tous les dimanches ou ailleurs des présentations de Jésus où tout ce qu'il fait, ça symbolise autre chose,
oui.
Ils finissent par se dire qu'il n'a pas vraiment existé, ou en tous les cas qu'on ne sait pas ce qu'il a été, qu'il n'est simplement un tissu de symboles.
Ouais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que justement, on ne part pas dans des théories fumeuses,
moi,
on s'appuie vraiment sur quelque chose de concret.
Dire qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Qu'est-ce qu'il était, comment il s'est comporté, comment s'est comporté son entourage. Et puis, j'ai aussi fait un ancrage historique. Il y a une histoire assez détaillée de cette époque. C'est pareil, c'est pour bien l'inscrire dans une histoire réelle. Les contemporains de Jésus, Jésus on sait qu'il ne l'a pas fait, mais les contemporains de Jésus pouvaient très bien écouter un de ses prêches sur le temple de Jérusalem, aller ensuite à Césarée Maritime, qui était le grand port romain, et partir à Rome, et à Rome aller acheter un ticket pour les Jeux, et voir l'empereur présider les Jeux.
Oui.
Jésus ne flotte pas. Il a peut-être marché sur les eaux une fois, mais il marche pas à 50 cm du sol.
Oui.
Donc ça, pour moi, c'est très important. Attention, j'ai tenté de faire un portrait de sa personnalité, comme si je le connaissais directement,
oui,
et que je l'avais vu.
Oui, bah,
j'ai simplement lu et relu les évangiles, oui, en notant tout ce qui pouvait se rapporter à la singularité de sa personnalité,
oui,
si tant est qu'il y ait une singularité, puisque il est aussi l'homme universel. Alors j'ai trouvé quelques traits qui sont importants. D'abord un surdoué, oui,
oui.
Mais c'est très important de dire que c'est un surdoué, parce que les traits d'intelligence qu'il manifeste, une théologie trop facile va vous dire « Ah mais ça c'est parce qu'il était Dieu, c'était facile,
oui,
il a prévu ceci, cela, il a deviné ceci, cela. »
Et vous évoquez même le fait qu'il ait étudié aussi.
Pardon, il a
étudié.
Mais ça, c'est dans les évangiles. Mmh. On vous dit que Jésus croissait en taille et en sagesse. Qui dit croissance, ça veut dire un travail de croissance. Mmh. En sagesse, la sagesse était très large. Ça concernait tout le savoir. Et donc, il a, en effet, appris. Il n'a pas. La science lui est parvenue infuse, même s'il comprenait plus vite que d'autres. Mmh. Ça, c'est certain.
Oui.
Par exemple, je trouve que il est vain de se demander s'il avait appris à lire et à écrire, non pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il était manifestement un surdoué. Vous prenez aujourd'hui un surdoué, il y en a quand même quelques-uns ici ou là. Généralement, ils apprennent à lire et à écrire tout seuls. Il suffit qu'ils trouvent un bout de journal, très vite, ils ont compris la mécanique.
Oui.
De même qu'ils savent beaucoup de langues.
Alors,
ils apprennent beaucoup de langues.
Vous énumérez le nombre de langues, enfin les langues qu'il aurait parlé.
Ils pouvaient en parler un certain nombre. D'abord l'araméen et l'hébreu,
hein,
parce que comme aujourd'hui il y a une différence entre la langue sacrée qui était l'hébreu et la langue populaire qui était l'araméen, on peut supposer qu'il parlait les deux.
Oui, vous dites le grec.
Le grec parce que c'était la langue commune du commerce, de tous les gens qui n'étaient pas la même tribu ou du même coin.
Le latin, parce que c'était
la langue d'administration, et puis peut-être d'autres langues comme l'arabe. Alors je mets l'hypothèse qu'il ait parlé le gaulois aussi, parce que les soldats qui étaient là. Parce que les Romains, ils faisaient comme on fait aujourd'hui avec les gendarmes, on les nomme jamais là où ils sont natifs, on les envoie à l'autre côté de l'Empire. Donc les soldats romains qui se trouvent à Jérusalem et autour de Jérusalem, ils viennent de l'Ouest. Ils viennent pas de Syrie. Ils viennent pas de. Et donc ça peut être des Gaulois parce que c'était le principal vivier de recrutement.
Mais par contre, nous n'avons pas trace de ça.
De quoi ?
De fait que les Gaulois soient allés là-bas.
Ah ben non, les Gaulois sont pas
allés
comme soldats romains. Non, mais on a une légende quand même au sujet du centurion. Une légende non vérifié, qui s'est rapporté au fil des siècles qu'il était d'origine gauloise.
Oui.
Mais c'est une déduction.
Oui.
Il y a des soldats romains de tous les côtés. Ces soldats romains, ils n'étaient pas du coin. C'était trop dangereux de mettre des gens du coin, parce que s'il y avait une émeute, ils allaient se solidariser avec les émeutiers. Donc, d'où pouvait-on les faire venir ? Italie, le recrutement italien avait cessé, les Italiens n'avaient plus envie de devenir soldats. Les Germains étaient trop loin et il restait la Gaule. Le gros recrutement occidental, c'était la Gaule. Mmh. C'est une hypothèse. Ensuite, les autres traits de. Donc, il est incontestablement surdoué et les miracles ne tiennent pas à la nature divine. Il dit à ses disciples, c'est très clair, il dit à ses disciples si vous avez la foi grande comme un grain de sénevé, vous en ferez autant que moi. Vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, vous pourrez. Faire des prodiges divers et variés. Donc, ça tient à une nature humaine exceptionnelle, tout ça. Avec la foi, quand même.
Oui. Oui. Vous dites, vous opposez sensible, viril, mais aussi autoritaire.
Autoritaire, un homme d'une autorité naturelle considérable, c'est sûr. C'est dit à un moment, il parle avec autorité, non point comme les scribes. Les scribes, c'est les petits bureaucrates qui sont derrière leur bureau, là, et qui vous donnent des ordres secs, mais qui, où il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de charisme, et qui, quelquefois, peuvent être féroces, comme ils le sont déjà dans les évangiles. Il parle avec autorité, c'est-à-dire c'est un chef, c'est manifestement un chef. Alors nous, nous avons l'idée d'un chef qui est un homme violent. Enfin, il y a des aspects de violence. Il y a les marchands du temple qui sont... leurs animaux sont dispersés. Peut-être qu'on ne les a pas frappés à eux, mais enfin, il y a avec un fouet qu'il avait fabriqué. On sent qu'il contient sa violence, par exemple, tout à fait au début de... au moment de son arrestation, il est quand même, il fait d'énormes efforts sur lui-même pour ne pas résister aux méchants, comme c'est ça a été prévu par les Écritures. Et il a un tempérament fort, et puis quand il parle aux pharisiens, il les traite de tout. Enfin, c'est des sépulcres blanchis. Sépulcres blanchis, ça veut dire vous êtes une pourriture dans une boîte. Ainsi de suite. Il y a des paroles très violentes, y compris d'ailleurs à l'égard de ses proches. Quand Saint-Pierre veut l'arrêter, dans sa marche à Jérusalem, il le traite de Satan. Satan, c'est pas n'importe quoi, comme injure. Et donc, et puis de notre côté, il y a l'extraordinaire douceur, compassion, miséricorde dont il fait preuve avec tout le monde, mais plus particulièrement avec les populations qui viennent à lui. Les populations qui viennent à lui. Donc il y a ces deux dimensions.
Vous évoquez un...
très fort, de grand caractère, et en même temps un homme très doux, très compatissant.
Oui. Et vous utilisez un terme assez actuel en disant qu'il est clivant.
Oui, alors ça, c'est important. Il y a des gens, vous savez, ils passent dans la vie sans que personne... mais ils ne plaisent à personne, ils ne déplaisent à personne.
Ils mènent une petite vie tranquille.
Et qui laissent les gens assez indifférents, mais souvent, ils peuvent gravir les échelons parce qu'on se dit, celui-là, il ne va pas faire une frappe à ombrage, il va obéir, il est... alors que lui, oui, bien sûr, il suscite et des attachements, j'allais dire fanatiques, mais enfin des attachements extrêmes de ses disciples, des apôtres, des disciples et de tout ce qui tourne autour, parce qu'il y a plusieurs échelons. Il y a les apôtres qui sont eux-mêmes subdivisés en trois groupes. Il y a Pierre, le chef, il y a Jacques et Jean, ensuite il y a les autres apôtres, ensuite vous avez les 72 disciples, ensuite il y a beaucoup de disciples qui ne sont pas dans les 72, etc. Et vis-à-vis de ces gens-là, manifeste un attachement considérable. Et Pierre lui-même, malgré son reniement, lui dit là où tu iras, j'irai. Je t'aime, il lui dit, je t'aime trois fois. Et si tu parles, mais si tu disparais, vers qui j'irai? Donc il y a des attachements absolument considérables. Et puis de notre côté, il y a des haines absolument effrayantes. Et notamment ces haines qui se conjuguent pour le conduire à l'accusation et à la mort. Parce que le récit est un peu neutre, le récit évangélique est un petit peu neutre, mais il faut quand même imaginer la haine immense qu'il y a derrière. On dit les Juifs et les Romains, mais enfin, c'est surtout des grands prêtres. C'est pas tous les Juifs, c'est les grands prêtres juifs. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'ils se racontent un peu partout, c'est pas parce qu'ils ne représentaient pas l'idée qu'ils se faisaient du Messie, c'est parce que, au contraire, ils le trouvaient très dangereux. Ils le trouvaient très dangereux. Caïphe dit très bien pourquoi. Il a essayé de le faire condamner, c'est qu'il fait trop de remue-ménage avec tous les gens qui tournent autour, et non seulement pour l'écouter, mais surtout pour se faire guérir. Ça va attirer l'attention des Romains, les Romains vont venir et ils vont détruire notre ville, notre peuple et notre temple, ce qui s'est passé en 70. Et eux, ils ont une vie bien tranquille, appuyés sur le pouvoir romain, un petit peu comme les élites coloniales sur le pouvoir colonial, enfin les élites indigènes sur le pouvoir colonial, une vie bien tranquille, ils ne veulent pas être dérangés dans cette vie tranquille. Donc ils ne voulaient pas qu'il soit le Messie. Il oui, n'attendait pas un oui. Messie.
Donc il fallait l'éliminer.
Pour protéger le peuple.
Oui,
pour
oui parce que peuple. Lorsqu'il est entré sous les... Comment dirais-je il y avait une grande attente lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. Tout le monde voulait le voir, le toucher, le solliciter. Évidemment, ça ne plaisait pas du tout aux Romains. Écoutez, merci beaucoup
Roland. Au grand prêtre juif, surtout. Ça ne plaisait pas. Et les Romains... Le pouvoir
Paris
romain,
Cochet.
Pilate savait qu'il n'était pas dangereux, il avait bien étudié le personnage, il avait des espions partout, mais par contre le pouvoir juif, le pouvoir romain pouvait s'inquiéter.
Oui. Écoutez, merci beaucoup, nous poursuivrons ce voyage dans votre merveilleux livre, merci beaucoup, nous ferons ça à la rentrée, bonne semaine à tous et à dimanche prochain.
Je vous remercie de votre attention.
C'était une joie, merci.